Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 novembre 2019 et nous aimerions parler aujourd'hui un petit peu de ce qui se passe au Chili. Donc vous avez vu peut-être dans les médias français depuis un mois, on voit passer des informations sur en fait un mouvement social en cours au Chili et on est deux actuellement, enfin on est une en technique et une en studio. Bonjour, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de diffuser en fait des témoignages de personnes chiliennes, soit au Chili, soit en France, qui vont nous parler un peu de ce qui se passe, puisque nous, on n'a pas trop. Enfin, nous, on ne sait pas. Hein, moi, je ne connais pas personnellement la politique ni trop la société chilienne. Mais voilà, il y a des personnes qui ont accepté de nous en parler et nous partager en fait leur lutte. Voilà, sur Canal Sud. Et donc peut-être pour commencer, nous allons écouter un témoignage de Ramona qui vit actuellement au Chili. Et voilà, c'est un petit montage qui dure une dizaine de minutes et dans laquelle elle nous raconte en fait ce qu'elle vit depuis plusieurs semaines au Chili, ce que les gens autour d'elle vivent. Donc vous allez voir, il y a beaucoup d'accumulation d'informations diverses et variées sur ce qui se passe. C'est assez violent, oreilles sensibles s'abstenir parce que c'est quand même assez choquant en fait ce qui se passe. Et donc dans le podcast de l'émission, je ferai suivre les liens qu'on nous a communiqués sur voilà, la documentation journalistique de tout ce dont elle parle dans ce petit montage. Voilà, c'est parti.
Ce qui s'est passé dans le mois d'octobre, c'est qu'ils ont augmenté le prix du transport à Santiago. Et là, les lycéens surtout ont commencé des mouvements d'évasion générale. Et ils s'organisaient pour sortir du lycée tous ensemble et frauder le métro ou ouvrir le métro pour que tout le monde rentre et ne pas payer le transport. Et face à ça, et les autorités ont mis en place des mesures répressives et ils commençaient par fermer le métro et après les lycéens et les personnes ont commencé à ouvrir le métro pour rentrer vraiment et pouvoir rentrer dans les stations de métro et frauder. En fait, il y a eu l'intervention policière et il y avait des policiers partout dans toutes les stations de métro. Et puis ça, au niveau de violence, ça a commencé à augmenter. Et puis le 18 octobre, ça a explosé et les gens ont eu marre de cette répression qui vivait surtout les lycéens. Parce que si, pendant toute cette année, ils ont vraiment mis en place une loi que ça s'appelle Aula Segura, que c'est une loi un peu l'équivalent à une association de malfaiteurs, mais pour des lycéens. Et là, ce jour-là, le 18 octobre, et je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu des manifestations et après ça a explosé et il y a eu des affrontements un peu partout dans la ville de Santiago, c'était dans la capitale, et il y a eu des stations de métro qui ont été brûlées, puis il y a eu une tour, c'est un immeuble, un bâtiment de l'entreprise nationale d'électricité qui a été brûlé, et sous ce prétexte, le président, il a mis en place un couvre-feu, que pour nous c'est très violent, le message qu'il a envoyé avec ce couvre-feu, parce qu'on n'avait pas eu ça depuis la dictature. Du coup, ça a provoqué dans des générations un peu le choc et le trauma de retourner dans les années de dictature, et vraiment voyez un peu la génération des personnes qui ont maintenant 40, 50, ou plus, ils étaient vraiment en choc, en état de choc. Et puis on voyait les militaires dans la rue et l'hélicoptère qui survolait. Et même en écoutant un peu les générations de la cinquantaine et tout, ils étaient vraiment traumatisés, ils ne voulaient pas sortir de chez eux parce que pour eux, juste avoir l'hélicoptère qui survolait, ça voulait dire pour eux que Ils pouvaient tout faire. Ils pouvaient tirer sur des personnes innocentes dans la rue. Ils pouvaient tirer dans des maisons. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils faisaient dans les temps de dictature. Et ça a duré quelques jours. Et il y a eu des morts. On ne sait plus encore combien de morts il y a eu parce que les chiffres officiels disaient à peu près 46 morts, mais on sait pas vraiment. Il y a eu des disparus, il y a eu des viols et des tortures. Et aussi il y a eu des saccages, mais il y avait des personnes qui rentraient, volaient dans des supermarchés et tout. Mais aussi, il y a eu des choses très bizarres qui étaient en train de se passer. Par exemple, ils ont brûlé des stations de métro en entier, mais quand même on se pose la question parce qu'on a vu des vidéos dans lesquelles il y avait des policiers qui étaient à côté et ils ne faisaient rien pendant que les stations de métro étaient en train de prendre du feu. Et puis après ça, même dans des supermarchés qu'ils ont brûlés, après ils ont trouvé des corps. Mais ces corps avaient déjà des balles. C'était des corps. En vrai, ce sont des personnes qui n'ont pas été tuées par le feu. Elles ont été tuées par des balles. Et même, ils ont trouvé des corps des disparus ou des détenus. Et après, il y a eu des personnes qui ont dénoncé dans les réseaux sociaux des centres de torture, que c'est quelque chose et de laquelle ils parlent pas et les autorités. Mais aussi, il y a une criminalisation des jeunes, des étudiants. Si t'as moins de 30 ans, ici, maintenant, au Chili, et tu peux pas être dans la rue tout seul, tu peux pas traîner dans la rue parce que vraiment, maintenant, les policiers, parce qu'il y a plus les militaires dans la rue, ils peuvent te prendre et t'embarquer. Et là, ce qu'ils font, chaque fois que tu te fais embarquer, et les gens, ils commencent à crier leur nom, leur prénom et leur numéro d'identité pour ne pas disparaître. Ça fait, bon, là, ça serait la 4e semaine un peu de mouvement. Et depuis le 18 octobre, tous les jours, à Santiago, il y a des manifestations, c'est surtout dans le centre-ville, dans un espace, dans un endroit qui s'appelle Plaza Italia, que c'est là où ils se font toutes les manifestations. Et bon, tous les jours, ça commence vers 17h, même avant. Et là, les activités commencent un peu à se paralysé dans le sens où les gens doivent, et s'ils veulent rentrer chez eux, ils doivent commencer à rentrer chez eux vers 15h parce que déjà à 17h c'est impossible de. Il n'y a pas de transport public et puis les rues sont coupées parce que ce qui se fait beaucoup c'est de faire des barricades dans la rue et couper la rue. Et juste pour imposer le fait que la rue est à nous et imposer un contre-pouvoir face à la répression. Et bon, après, avec tout ça, on a vu plusieurs stratégies qui ont mis en place les autorités. Parce que après, en fait, quand il y a eu les militaires dans la rue, et le gouvernement a perdu tout son soutien. Mais vraiment tout le soutien, même des personnes et de droite et tout, même sa coalition, en fait, ne le soutient plus. Après ça, ce qu'ils ont commencé à mettre en place comme stratégie et répressive, c'était d'éborgner les gens et un peu comme on voit là-bas en France qu'on voit avec le flashball et que les gens commencent à perdre les yeux. Ici, ça fait plus de 200 yeux qu'on a perdu depuis le début de ce mouvement. Et bon, après, maintenant c'est dans tout le pays, ça a commencé à Santiago, mais très 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 vite les autres villes ont commencé à se mobiliser. Et en fait, ce qui se passe maintenant aussi, c'est qu'on voit trop une organisation au niveau territorial. Parce que les gens ne s'identifient pas trop en tant que Chiliens. C'est plus dans leur territoire et aussi que les personnes qui vivent plus au sud ou au nord du pays. Ils en ont marre de la centralisation et qu'il y a et que tout ils doivent passer par Santiago tout le temps pour tout, tout, tout. Tout est centralisé à Santiago. Du coup, ça a commencé, ils ont commencé à s'organiser au niveau territorial. Et ils ont commencé à faire des assemblées territoriales et pour et discuter un peu quelles sont leurs problématiques à eux dans leur territoire et qu'est-ce qu'ils veulent et changer dans leur réalité territoriale. Et comment faire. Et puis, l'autre chose qu'on a vu, c'était des assemblées féministes. Aussi, il y a des assemblées féministes territoriales ou générales pour parler plus des violences sexuelles qu'on vit dans le mouvement. Et quand je parle des violences sexuelles, bien sûr qu'il y a une population qui le vit plus fort, et un peu comme partout dans le monde. Mais c'est tellement fort que vraiment, même les personnes qu'on peut imaginer qui sont plus des oppresseurs, et là, ils commencent à se faire oppresser par les militaires et par les policiers. Par exemple, le jour où ils ont arrêté le couvre-feu, il n'y avait plus les militaires dans la rue. Cette nuit, il y a eu un homme cis hétéro qui s'est fait kidnapper par les policiers. Pendant 2 heures, ils l'ont torturé, ils l'ont violé et après ils l'ont jeté dans la rue comme ça. Mais aussi on voit que les personnes en situation de rue sont en train de vivre plus ces violences sexuelles. Et par exemple, le deuxième jour, il y a eu une femme qui habitait dans une cité, dans un quartier très très précaire à Santiago, qu'ils ont trouvé son corps pendu. Et ça, c'était un message pour lui dire à tous les habitants de la cité qu'ils devaient rester tranquilles et pas se mobiliser, parce que c'était une cité quand même qui a une histoire assez combative. Et c'est un peu tout ça ce qui est en train de se passer. Et aussi, bon, dans les quartiers les plus populaires, aussi on voit comment il y a cette répression policière et ils vont la nuit et ils commencent à intimider les gens. Ils essaient d'embarquer des personnes sans raison. Et avant-hier, mardi 12, on a vu ce soir-là qu'ils sont allés dans une cité aussi assez connue, qui a une histoire très résistante. Ils sont allés et ils ont essayé d'embarquer un habitant de la cité, et puis tous les autres habitants, et ont essayé de le sauver des policiers. Mais ce soir-là, à cause de ça, après, les policiers sont allés se venger. Et pendant toute la nuit, il y a eu des affrontements, ils balançaient des lacrymos. Et c'était vraiment la terreur pour les habitants de ce quartier. Bon. Et puis, au niveau de résistance, là, les gens sont un peu fatigués. Et ils essaient de résister, de s'organiser et tout. Mais quand même, c'est très délicat. Parce qu'il y a un côté de la population qui est en train de prendre les armes. Et puis face aux armes policières, il n'y a pas grand-chose à faire pour se défendre, pour résister. Et maintenant, ce qu'ils font le plus, c'est d'utiliser le laser contre l'hélicoptère. Mais quand même, de l'hélicoptère, ils tirent sur les gens ou ils balancent des lacrymogènes. Et ils provoquent plusieurs incendies quand les lacrymogènes tombent sur les bâtiments. C'est que aussi c'est ça dans les manifestations, et c'est vraiment c'est comme un champ de guerre, parce qu'il y a le front et là les personnes qui vivent, en fait, qui vraiment il y a les affrontements, et les gens qui résistent contre les policiers, ils essaient de le faire reculer pour que les autres personnes qui sont plus loin puissent manifester et autrement, des façons plus tranquilles, plus artistiques, plus familiales. Et comme ça. Mais ça dépend de dans quelle partie de la manifestation tu te retrouves, comment les gens se manifestent.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo de
Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 dans cette émission, dans ce magazine qui parle de ce qui se passe au Chili en ce moment. Donc là, on vient d'écouter le chanteur chilien Victor Jara, qui était aussi membre du Parti communiste et qui a été assassiné par la police chilienne sous le régime de Pinochet en 1973. Il avait 40 ans. El derecho de vivir en paz, la chanson qu'on vient d'écouter, c'est un titre qui initialement s'oppose à la guerre au Vietnam, mais il clame plus largement le droit de chaque être humain à vivre à l'abri de la misère, de l'exploitation capitaliste comme de l'exploitation coloniale. Et il est repris en ce moment dans les rues de Santiago. Alors, je trouve ça chouette qu'on puisse l'écouter aujourd'hui. Que le peuple chilien se lève face aux injustices pour une société plus juste et plus égalitaire. Donc voilà, donc dans la première partie, on a écouté un peu le témoignage de Ramona qui nous parle un peu de ce qui se passe et que c'est vraiment terrible. Maintenant, on va écouter un plateau qu'on a enregistré à Canal la semaine dernière, dans lequel il y a des Chiliens et Chiliennes qui vivent en France, qui sont venus un peu nous faire part de leur perception de ce qui se passe au Chili depuis la France, qui nous explique un petit peu aussi les causes en fait de ce mouvement, qui nous parle de la situation économique et sociale au Chili. J'espère qu'ils nous écoutent et je les salue et je les remercie. On est sur Canal Sud pour parler de ce qui se passe au Chili en ce moment depuis 3 semaines. Donc si vous avez un peu suivi l'actualité et la manière dont on en parle depuis la France, il y a un gros mouvement social en fait depuis 3 semaines à Santiago, mais aussi dans les autres régions du Chili. Donc depuis 3 semaines, il y a des grandes mobilisations et même le 25 octobre, en fait, il y avait plus de 1,2 million de personnes à Santiago, plus les autres régions mobilisées. Donc ce mouvement social, l'idée c'est d'en parler un peu aujourd'hui, de comprendre quelles sont ses racines et dans quel contexte il se crée en fait et il se développe. Donc il est composé de quoi ce mouvement social? C'est des mobilisations, des occupations de place, des grèves. Au départ, c'est parti dans la semaine du 14 octobre dernier de l'augmentation du prix du billet de métro à Santiago. Mais en fait, très vite, en fait, ça s'est élargi à une problématique plus globale sur en fait, la colère. En fait, c'est devenu, ce mouvement, il est devenu le catalyseur, ou il est venu canaliser en fait, la colère face aux injustices d'un système inégalitaire. Voilà, du système égalitaire, du système économique au Chili. Et voilà, donc peut-être pour comment... Et donc en fait, on est plusieurs là autour de la table. Autour de nous, il y a notamment des gens qui font partie du collectif Chilenos en Toulouse ou alors qui gravitent autour de ce collectif. Donc autour de la table, on a Loreto.
Si, voilà.
On a des traducteurs, Américo.
Hola.
Jérôme.
Hola.
Harold.
Hola, hola.
Adèle.
Hola.
Manola.
Hola.
Et Daniel.
Hola.
Salut. Du coup, on est content d'être là pour parler un petit peu de ce qui se passe au Chili, parce que c'est vrai que depuis la France, on ne comprend pas forcément très bien ce qui se passe. Et peut-être pour commencer, on pourrait commencer par introduire le contexte historique et économique de ce qui se passe au Chili, et notamment le contexte latino-américain, en fait, de ce mouvement.
Sí, bueno, yo voy a empezar a hablar un poco del contexto latino-americano, brevemente.
Je vais commencer rapidement sur l'histoire de l'Amérique latine et on peut résumer en gros cette histoire par l'histoire de l'installation du néolibéralisme dans la région.
Creo que un buen origen para comenzar a entender la historia son los Chicago Boys.
Un bon point de départ, c'est les Chicago Boys au Chili.
Y después de los Chicago Boys viene la inestabilidad económica en toda la región.
Et ensuite, il y a l'instabilité qui s'installe dans toute la région et les 6 dictatures qui vont s'installer dans la région latino-américaine.
Todo esto fue en el marco de la instalación del neoliberalismo en la región que tuvo su periodo de auge en los años 90. Y después, bueno, hubieron algunos países,
il y a eu quelques pays dans la région qui ont choisi un capitalisme plus protectionniste, un petit peu développé et qui sont un peu à part de ces pays. La région donc, a souffert un peu de la tentative de mise en place de politiques sociales, mais l'histoire chilienne, par contre, est particulière et c'est mon ami Harold.
Je vais parler en espagnol aussi. Lo que señala Daniel es cierto.
De ce que señala Daniel est très vrai. Et le Chili est un cas très emblématique du néolibéralisme. Donc, dans un contexte de dictature dans les années 70-80, donc une dictature civico-militaire, des civils en lien avec l'armée, les militaires, ont installé une dictature et le système néolibéral avec les Chicago Boys.
Con algunos pilares en educación, en salud.
Donc ils ont créé des piliers en éducation, santé, dans le système social en règle générale, qui suite à la fin de la dictature et ce qu'on appelle la transition, n'ont jamais été remis en question, n'ont jamais été changés. Donc ensuite, après la transition, donc qui a lieu plutôt dans les années 90, commence une série de mouvements sociaux qui marquent l'histoire récente du Chili.
Podríamos situar el comienzo de este de esta movilización chilena el 2006.
Donc on pourrait situer le début de ce mouvement social en 2006 avec le mouvement qu'on appelait les pingüinos, qui étaient les lycéens. Et ensuite en 2011 avec les universitaires.
Y luego de esto las luchas se convierten en algo de algo muy sectorial, algo
donc
más territorial.
D'une lutte et de mouvement qui était dans un premier temps sectoriel, ça s'est transformé ensuite en lutte territoriale, géographiquement localisée, comme ça a été le cas dans la région d'Aysén, la région de Chiloé, le mouvement qui s'appelait Patagonia sans barrage. Donc de tous ces mouvements, en fait, c'est une accumulation de forces et de luttes qui se sont finalement rejointes et qui ont été symbolisées par exemple par la lutte contre le système des retraites, non masse AFP, plus d'AFP, et d'autres luttes transversales telles que les luttes pour le genre et par exemple le mouvement féministe l'an dernier qui était très fort. Donc cette accumulation de forces, de luttes et de causes se sont toutes rencontrées et se sont rassemblées il y a trois semaines suite à l'augmentation de 30 pesos du billet de métro qui, d'un petit détail en fait, a rassemblé toutes les forces, a rassemblé toute la population chilienne autour de ce mouvement qui a été lancé initialement par les lycéens, une fois plus, et qui a rassemblé finalement toutes les strates de la population chilienne et les luttes et causes sociales de ces dernières années.
D'accord, donc on voit un peu qu'il y a eu déjà plusieurs mouvements et en fait que là, le mouvement auquel on est en train d'assister ou auquel prennent part les Chiliens et Chiliennes aujourd'hui, il n'est pas tout à fait nouveau et en fait, il a aussi une histoire. Peut-être que... Alors, ce qui est assez particulier par rapport au Chili, c'est que là, on l'a compris, c'est un pays qui a une économie néolibérale qui a plus de 40 ans et en fait, qui a un système économique très violent, en fait. Mais en fait, il est souvent présenté comme un modèle de réussite en fait du néolibéralisme. Du coup, la question, c'est un petit peu qu'en est-il des inégalités au Chili et quel est l'impact en fait de ce modèle économique sur la vie des gens.
Ok. Para empezar, hay que decir que este milagro chileno.
Pour commencer, il faut dire que ce miracle chilien ou la Suisse de l'Amérique latine n'existe pas. Ce qu'a fait l'État chilien, c'est de manipuler les chiffres de la macroéconomie pour montrer une image à l'international impeccable. Si on regarde l'indice de développement humain de l'ONU, on voit que le Chili a l'indice le plus haut. Donc l'indice le plus haut en Amérique latine, mais ça a à voir en fait avec le très, très fort coût de la vie au Chili.
Entonces, ¿por qué Chile siempre aparece alto en estos
Alors,
rankings?
Si le Chili se retrouve assez haut dans ses classements, c'est parce qu'il est mesuré sur le niveau scolaire, l'espérance de vie et le revenu par tête. Et donc, c'est un reflet de l'argent qui circule au Chili.
Et
le Chili, jusqu'en 2011, a toujours mesuré la pauvreté à partir d'une mesure strictement économique, alors que la plupart des pays mesurent avec des indices multidimensionnels.
Entonces, lo que ha hecho Chile,
ce qu'a fait le Chili, c'est qu'il aurait réduit le niveau de pauvreté ces dernières années, mais c'est parce que la ligne de la pauvreté est vraiment très basse, le seuil de pauvreté.
Por ejemplo, en marzo de este año,
par exemple, jusqu'au mois de mars, le seuil de pauvreté était situé à 200 euros.
Mientras que el alors sueldo que mínimo
le salaire minimum est à peu près à 350 euros. Si on regarde les indicateurs multidimensionnels de la pauvreté, on rentre des critères d'éducation, de santé et de travail, de logement, et de réseau et relations et cohésion sociale. Et le système de mesure de ces différents critères, en fait, mesure si on a accès ou pas à ces différentes à ces différents critères, mais ça mesure pas la qualité de ces services. Alors, un exemple, par exemple, c'est au Chili, c'est la santé. Alors, il existe un accès à la santé au Chili, mais en fait, c'est une santé de mauvaise qualité.
Ahí es donde entra el tema de la.
Et c'est là que rentre la question de l'inégalité, qui est en fait une inégalité dans l'accès au pouvoir.
Que va mucho más allá de un criterio económico.
C'est quelque chose qui va bien plus loin que l'économique, ça a à voir avec le pouvoir et la dignité des personnes. Et ça, la population chilienne s'en est rendu compte au fond. Et c'est ça qui fait exploser ce mal-être aujourd'hui, c'est que elle ressent cette inégalité de l'accès au pouvoir. Et c'est quelque chose qu'elle peut pas changer de manière individuelle.
El malestar pasa por pagar por todos
le malaise, services, il arrive parce qu'il faut payer pour tous les services et les services que distribue l'État sont mauvais.
Mientras la clase que tiene...
Alors que la classe qui a le pouvoir, elle a le contrôle, l'argent et le pouvoir sur tous les Chiliens.
Bueno, obviamente un movimiento social.
Alors évidemment, il y a toujours plusieurs facteurs qui influent sur un mouvement social, sur les raisons d'un mouvement social, mais ce mal-être a influencé beaucoup pour que les gens sortent aujourd'hui dans la rue.
Porque al ser la clase,
alors que la classe avec de l'argent et avec du pouvoir est un pourcentage minime de la population. Et il y a une proportion bien plus élevée de la population qui est la classe moyenne, qui a beaucoup moins d'argent et qui reste complètement en dehors de la protection de l'État et en dehors du pouvoir.
Tu parlais d'un salaire minimum de 350 euros, alors que le coût de la vie, lui, il est très élevé.
Si. Si ustedes pudieran ir al supermercado en Chile,
oui, parce que en fait, si vous allez dans un supermarché au Chili, les prix sont relativement similaires à ceux qu'on peut trouver à Toulouse. Et pareil pour les transports.
Entonces, la gente tiene menos dinero.
Ils ont moins d'argent pour les produits, et en plus, ils doivent payer pour une santé précaire, une éducation précaire, un travail précaire, etc.
Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas, variadas y los bloques, las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la pega, parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Un Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los gringos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los gringos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje.
Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, hermanos Vergara, el Cizarro y el Zambrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de negrero empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es
verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan el lomo el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Vengo del Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los gringos se abren porque aquí son ciudades, cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo del Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los gringos se abren porque aquí son ciudades, cuidado con quemarse con este mensaje.
Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos porque otra es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblema, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Canto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Ya. Es el poblacional.
Tu parlais du coup de cette inégalité à l'accès aux biens de première nécessité. Quand on a discuté tout à l'heure, on a parlé du système des retraites, les pensions, qui est assez représentatif de cette inégalité-là, puisque c'est un système par capitalisation. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu et nous parler de comment les retraités, enfin comment ça se passe en fait vraiment pour les retraités chiliens?
Sí, y también quizás Harold también puede aportar, sí.
En Chile, le système, c'est que une personne accumule de l'argent pour sa propre jubilación.
Bueno, es un reflejo del sistema capitalista.
C'est un reflet du système capitaliste parce que c'est une accumulation d'argent individuel. Sans aucun apport de l'État, celui qui accumule plus va avoir une meilleure retraite.
Vale, entonces, los dineros de...
Alors, l'argent épargné pour les retraites est géré par des entreprises privées.
Las personas tienen que pagarle una comisión a estas empresas privadas.
Les gens payent des commissions à ces entreprises privées. Et comme par hasard, les personnes qui sont propriétaires de ces entreprises sont les personnes qui ont le plus d'argent au Chili et qui ont les plus de liens avec le pouvoir politique. Alors eux, donc, ils gèrent tout l'argent des retraites. Et puis quand il y a des pertes, eh ben, c'est les personnes privées qui ont économisé qui perdent. Et quand il y a des bénéfices, eh ben, c'est par contre les propriétaires qui font les bénéfices. Ce système est obligatoire. Et on ne peut pas retirer l'argent. C'est illégal.
Y lo que hacen las empresas es que dividen el dinero.
Les entreprises donc retirent l'argent en calculant la retraite des personnes et ils calculent que les gens vont vivre à peu près 110 ans.
Entre muchas otras estrategias.
C'est la manière qu'ils ont pour baisser les mensualités que les personnes touchent pour leur retraite.
Esto ha creado un problema gigante en los últimos años.
Ça a créé un problème énorme ces dernières années parce que le gouvernement a obligé à ce que tout le monde s'intègre à ce système. Avec des personnes qui reçoivent pour une retraite de 100 ou 150 euros mensuels.
Le résultat de tout ça, c'est que les
suicides des personnes du troisième âge ont augmenté ces dernières années.
D'accord, merci. Donc là, on voit qu'il y a tout ce système qui exerce une violence et des contraintes sociales qui expliquent peut-être que les mouvements sociaux dont là on parle, en fait, ils ont aussi pour l'idée de venir arracher en fait quelques libertés de ce système profondément injuste. Mais aussi, ce qu'on voit d'un autre côté, c'est que la répression face à ces mobilisations, elle est très forte. Nous, on a vu passer des chiffres dans la presse française comme ça, en voyant en fait qu'il y avait, ce qu'on a entendu, et tu vas nous en parler, c'est le fait qu'il y a à nouveau les militaires dans la rue, qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes en fait au cours de ces mobilisations. Est-ce que tu pourrais nous parler de déjà peut-être de la forme que prend le mouvement social en cours à Santiago et au Chili en ce moment, et quelle est la réponse de l'État?
Et en fait, depuis plus de 20 jours, il y a plus de gens qui sont dans la rue. Et la réponse du gouvernement a été du début et de militariser le conflit, de répondre avec beaucoup de répression et de violence. Au début et le deuxième jour déjà des protestations, il y a eu le couvre-feu qui a été déclaré et l'état d'urgence, ce qui se traduit dans la sortie des militaires à la rue, ce qu'on ne voyait pas au Chili depuis la dictature. Donc c'est vraiment une blessure qui se réouvre pour le peuple chilien. Et en fait, et d'abord ça a été la police et après les militaires qui ont exercé une violence vraiment brutale et arbitraire et vraiment extrême. En fait, on sait que toujours la répression policière c'est brutal, mais maintenant c'est vraiment un extrême. Il y a une vulnération des droits humains qui est exercé. En fait, il y a l'Institut national des droits humains compte ça 2 jours, en fait, et avant hier. Et il a compté qu'il y avait plus de 197 personnes qui ont des blessures oculaires. Et il y a des gens qui ont perdu déjà des yeux. Et ça fait quelques jours aussi un étudiant qui a perdu les 2 yeux, donc il est resté aveugle. Et il y a beaucoup de plaintes portées aussi par violences sexuelles, par des tortures. Et il y a une persécution aussi, il y a des documents qui révèlent, des documents de la police qui ont été révélés et qui montrent une persécution aux dirigeants étudiants, aux dirigeants syndicaux. Et il y a toutes ces informations, toutes ces données qui nous montrent que vraiment la violence qui est exercée aujourd'hui est, en fait, n'a pas de limite. Et après, c'est important de dire aussi que cette répression est exercée et de manière brutale et plus brutale encore dans les quartiers populaires, et comme ça se faisait en dictature. Et il y a des gaz lacrymogènes qui sont lancés dedans des hôpitaux, dedans des immeubles. Il y a des gens qui vont être détenus par la police directement dedans leur domicile, en fait dans leurs appartements. Et donc vraiment c'est très préoccupant ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plus de, en fait, les numéros officiels bien sûr que ne démontrent pas ce qui se passe en réalité, mais il y a plus de 20 morts. Ça c'est le comptage officiel, mais bien sûr qu'on sait qu'il y a plus. Il y a des gens disparus aussi. Et donc c'est vraiment brutal ce qui se passe. La police est, en fait, elle tire sur les gens et de façon indiscriminée. Hier, et sur le, en fait, il y a eu une sur la Commission internationale des droits humains, et il y a plusieurs représentants de l'État chilien qui ont allé pour parler de ce qui se passe maintenant au Chili, et de indépendants aussi qui vont défendre les droits humains. Et il y a eu la défenseur de l'enfance. Et elle a parlé, en fait, après les représentants de l'État, et elle a démontré, en fait, dans quelques minutes que tout ce qu'il disait, en fait, c'était pas vrai. Parce que les représentants de l'État, en fait, il y avait l'ambassadeur, il parle juste des dégâts matériels. Et tandis qu'il y a beaucoup de victimes et que les pertes humaines et les violences faites aux personnes sont beaucoup plus importantes et plus grandes que ce qui se montre. Et donc vraiment c'est très dur ce qui se passe aujourd'hui au Chili. C'est pas juste des nombres de personnes, mais c'est des vies réelles qu'il y a derrière, des personnes qui ont perdu leur vie, mais aussi qui ont été torturées, des femmes qui ont été violées. Donc c'est vraiment une situation très 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 grave.
Ok.
Et peut-être en lien avec cette répression-là, moi je me posais la question, j'ai entendu que le pouvoir, en tout cas les services de renseignement ou de police, font tout pour que les preuves des violences policières ou de l'armée soient supprimées. Ça rejoint une autre question de comment est-ce que font les personnes sur place ou même vous pour arriver à faire circuler cette information et à vous informer sur la situation de ce qui se passe jour après jour à Santiago ou autre part au Chili.
En fait, oui, c'est très important le rôle qu'ils sont en train de jouer les médias aujourd'hui, les réseaux sociaux. En fait, grâce aux vidéos qui circulent, principalement dans des moyens de presse alternatifs, bien sûr que pas à la télé, parce que en fait, les médias officiels ne montrent bien sûr pas ce qui est en train de se passer vraiment. Mais après, les réseaux sociaux ont pris une importance très grande à montrer cette réalité. En fait, il y a plein de... Les gens essayent de filmer toutes les répressions et les violences policières, ce qui a beaucoup aidé et ce qui nous aide, nous aussi, à pouvoir nous informer et d'ici de ce qui se passe au Chili. Et après... Oui, en fait, c'est le principal instrument qu'on a aujourd'hui pour bien s'informer, en fait, pour diffuser. On essaye de diffuser cette information et en fait, de savoir qu'il y a... En fait, on reconnaît déjà qu'il y a des médias qui montrent vraiment ce qui se passe et d'autres qui essayent, en fait, de criminaliser tout ce qui est en train de se passer, en fait, de montrer, et, en fait, les dégâts matériels, les... Je sais pas, les banques brûlées ou en fait les dégâts et pas la violence qui est en train d'avoir lieu.
Oui, ou même les termes qui sont utilisés dans certains médias français qui vont dire voilà, tel quartier a été saccagé par les manifestants et sans parler ni du contexte ni de la répression policière auquel font face les manifestants. Est-ce que vous avez peut-être qu'est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce qui enfin soit la situation économique au Chili, soit ce que porte ce mouvement. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter?
Donc si je peux me permettre d'ajouter quelque chose et de prendre un autre point de vue et peut-être de focaliser sur du positif, parce qu'il y a aussi beaucoup de positif dans ce mouvement et c'est ça aussi qu'il faut retenir et sur lequel on peut se retourner pour se dire qu'il y a quand même de l'espoir et que ce mouvement, en fait, est très beau, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de discussions, de débats et de solidarité qui naissent de ce mouvement-là. Et c'est ça qui est le plus important à retenir, en fait, c'est que les quartiers s'organisent, les familles s'organisent. Il y a beaucoup de réunions. Alors maintenant, ça parle énormément. Donc la demande qui est la plus fréquente, c'est de réformer la Constitution, de la réécrire. Et donc, il y a beaucoup d'assemblées constituantes, d'assemblées citoyennes appelant à débattre de quelle constitution, de quel système, de quel monde veulent les Chiliens. Donc ça, c'est pour ce qui est des réunions plus formelles. Mais il y a aussi beaucoup de réunions plus informelles, de réunions de quartier, de soupes populaires, de réunions plus familiales pour aussi se retrouver, se détendre un peu dans un univers qui est quand même très tendu.
Et donc là, autour de la table, il y a des personnes qui vivent au Chili, mais d'autres qui résident en France. Moi, ma question, c'était en fait, comment on fait pour suivre un mouvement qui se passe dans notre pays, mais dans lequel on n'est pas au moment donné. Comment est-ce qu'on fait pour... comment ça se passe, en fait, pour vivre cette situation en étant soi-même dans une situation d'exil?
Bueno, vivir este proceso.
Donc effectivement, vivre ce processus depuis l'extérieur, surtout pour des personnes qui, au fil du temps, ont eu l'habitude de se mobiliser, donc de le vivre depuis l'extérieur, c'est quelque chose d'assez dur, psychologiquement.
Porque genera mucha ansiedad.
Ça génère beaucoup d'anxiété, effectivement, on est tous les jours à regarder sur les réseaux sociaux, voir si nos amis, nos collègues n'ont pas été impactés, blessés, détenus, enfin voilà, s'il n'y a pas de répercussions directes.
También por nuestra familia, cuál es el estado, cómo viven nuestras familias, lo que está pasando en Chile.
On s'inquiète évidemment aussi beaucoup pour nos familles, et donc voilà, tout ça crée beaucoup d'anxiété. Et c'est pour ça aussi que nous, les Chiliens, qui vivons ici en France ou à l'extérieur, on cherche des endroits comme ça de rencontres et de réunions pour vivre ensemble ce moment.
Et
donc l'idée aussi, c'est que nous aussi, on essaye de créer des endroits de discussion, de débat. Ça fait 2 ou 3 semaines qu'on manifeste aussi, on sort, on fait des cacerolazo comme au Chili, on sort avec nos casseroles sur la place Jean Jaurès, donc on manifeste, on est aussi dehors. Donc on organise aussi une instance plus formelle de discussion organisée, une assemblée de Chiliens autoconvoquée pour discuter de ce qui se passe au Chili et du futur. Donc on le fait par exemple demain au Rincón Chileno à 6h, 18h. On organise aussi des rendez-vous et des événements portés vers l'extérieur pour aussi donner de la visibilité à ce qui se passe et en discuter avec les personnes qui seraient intéressées. Donc on organise par exemple dimanche une fête, une rencontre avec des concerts, de la musique, de la danse, qui aura lieu dimanche à 16h à El Dorado, qui est à Esquirol, c'est ça? Voilà.
Y bueno, y por último, la última actividad que estamos en curso de generar, un tipo cabildo encuentro reflexivo para definir junto a los chilenos
gente que sea se reunir avec les Chiliens, mais aussi les Français qui le souhaiteraient, se réunir sous une forme un peu comme ce qui se passe au Chili avec les assemblées, si on peut appeler ça comme ça. Donc un moment réflexif autour de ce qui se passe au Chili et surtout qu'est-ce qu'on veut pour la suite et quel système
est-ce qu'on aimerait mettre en place.
D'accord. Bon, on va devoir rendre l'antenne. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Oui. El pueblo unido
jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Le peuple armé jamais sera vaincu.
Voilà, donc c'était le plateau en fait qui a été tourné la semaine dernière avec donc des membres du collectif Chilenos en Toulouse. Donc là, les événements dont ils ont parlé, ils sont passés. Par contre, si ça vous intéresse et que vous voulez aller à justement l'événement dont parlait Harold à la fin de l'entretien, le groupe de réflexion Chilenos en Toulouse, il y a un rendez-vous le 23 novembre prochain, donc c'est ce samedi, de 14h à 17h30, et ça se passe en intérieur, parce que Facebook m'indique qu'il va pleuvoir ce jour-là, donc vous serez tout à fait à votre aise dans l'espace de El Rincón Chileno, donc c'est à Saint-Cyprien, 24 rue Réclusanne. Voilà, donc si vous voulez rencontrer des Chiliens et parler de cette lutte, n'hésitez pas. Je mettrai les infos dans le podcast, tout comme du coup toutes les sources aussi pour documenter un peu ce qui a été discuté. Voilà. En fait, il y a peut-être plein d'autres choses aussi à creuser sur l'histoire du Chili, sur plein d'aspects qui n'ont pas été abordés en une heure. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus et que ça vaut le coup de faire une autre émission, vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires sur le site du podcast. Voilà. Et on va vous laisser sur un enregistrement qui en fait est un petit montage qui reprend en fait le discours du président Salvador Allende en 1970 qui était le président en fait qui a précédé Pinochet et donc qui a été renversé par le coup d'état fasciste, je pense qu'on peut le définir comme ça, de Pinochet en 70, et donc du coup qui prend la parole depuis le palais présidentiel alors que le coup d'état militaire est en train de se produire et que différentes institutions se font attaquer. Donc on vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt sur les ondes de Canal.
Te salve el presidente de la República desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido. En estas circunstancias, llamo, sobre todo a los trabajadores, que ocupen sus sitios de trabajo que concurran a su fábrica. De todas maneras, el pueblo y los trabajadores fundamentalmente deben estar movilizados activamente para sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que puede hacerle y las instrucciones que le dé el compañero presidente de la República, para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.
Si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, ay. Canto, si me borrara el viento lo que yo canto. Cante lo